Alors, bonne année à tous ceux que j'ai pas encore souhaité la bonne année, même si je pense que maintenant j'ai commencé à faire le tour des personnes. Et je sais pas si vous connaissez ce genre de cadeaux qu'on peut offrir parfois à la nouvelle année ou parfois même à Noël, où il s'agit d'un calendrier où chaque jour ou chaque semaine il y a un petit casse-tête dedans. C'est ce qu'on trouve un peu voilà, dans les magasins parfois, on trouve voilà, des petits casse-têtes, des énigmes à résoudre. Et ce matin, j'aimerais vous proposer un genre d'énigme aussi qu'on trouve bien souvent aussi dans la Bible, des passages qui nous paraissent peut-être un peu obscurs, surtout pour nous aujourd'hui. Et voilà, je vais vous lire un chapitre dans Zacharie. Alors Zacharie n'est pas connu pour être un auteur des plus simples. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est juste avant Malachie, donc juste à la fin de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible, juste avant Malachie, l'avant-dernier livre du coup. Donc Zacharie 4. Alors allons lire cette petite énigme. Alors c'est une vision, un rêve qui a été donné à Zacharie. L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme qu'on tire de son sommeil. Il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnais l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai, que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai, que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or? Ou d'où découle l'huile dorée? Il lui répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'il représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur et de toute la terre. Alors, le livre de Zacharie. Il se structure de cette manière. On peut voir 3 parties dans le livre. Il y a 14 chapitres. Il y a une première partie du chapitre 1 au chapitre 6, dans lequel il y a le chapitre 4 qu'on vient de lire. Chapitre 1 à 6, où il y a plusieurs visions. Il y en a 6 en tout. 8, excusez-moi. Et on a une deuxième partie dans le livre de Zacharie, chapitres 7 et 8, et puis une troisième, chapitres 9 et 14, qui sont, voilà, des épisodes différents. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre 4, donc, qui se trouve dans la cinquième vision que Zacharie reçoit. Tout cela dans la même nuit. Alors, cette structure n'est pas très commune, on le verra. Et on voit une césure dans le livre de Zacharie assez flagrante, au chapitre 9, où on a moins de repères chronologiques qu'avant. On sait un peu moins dans quel épisode ça se trouve. Et puis, surtout, on a une ambiance qui devient vraiment apocalyptique. Alors qu'avant, on a quand même plutôt le Seigneur qui fait des promesses de paix et d'abondance. Il y a la construction qui avance bien. Mais à partir du chapitre 9, là, on ne parle plus du temple. Voilà, pour vous situer un petit peu le livre de Zacharie. On voit aussi dans le livre de Zacharie, chapitre 1, il nous est dit qu'on peut trouver, en tout cas, avec les différents repères qui nous est dit, qu'on se trouve à 522 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est l'épisode où il s'agit de reconstruire le temple qui a été détruit. Alors, avec seulement le livre de Zacharie, il est difficile de voir vraiment où on se situe. Mais grâce à d'autres livres de l'Ancien Testament qui racontent les mêmes épisodes, mais de façon plus historique, on arrive à se repérer. Donc, dans les livres d'Agée, par exemple, et Esdras, chapitre 5 et 6, nous avons les mêmes épisodes qui sont racontés et ça nous permet de savoir un peu voilà, où Zacharie se situait, dans quel contexte il se situait. Alors, vous comprenez que déjà, la lecture de ce texte, chapitre 4, là, on voit que ce n'est pas un texte qui est très simple. Et pour comprendre la signification des différentes visions, il faudra rentrer un peu plus à l'intérieur de la pensée juive de l'époque. Et il faudra aussi s'armer de connaissances de l'Ancien Testament, avec notamment les livres d'Agée, de Esdras, mais aussi de savoir mais comment ça a arrivé, cette destruction du temple et tout ce qui s'est passé par la suite. Et on va essayer de décrypter du coup ces visions qui se trouvent de chapitre 1 à 6. Et en particulier, on va après s'arrêter sur ce texte du chapitre 4, qui est la cinquième vision. Alors, au chapitre 1 de Zacharie, on a une petite introduction, les six premiers versets, où l'Éternel met en perspective qu'il veut renouer avec son peuple. Il y a l'exil en Babylone qui a provoqué, qui a été provoqué après des incessants avertissements de l'Éternel, qui a provoqué une rupture avec le peuple. Et l'Éternel cherche à renouer avec son peuple. Mais pour cela, il y a des conditions. Et c'est dit au chapitre 1, verset 12, « Il faut revenir à lui et rompre avec les mauvaises conduites de leur père. » Il faut rompre avec les mauvaises conduites de leurs ancêtres. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Et là encore, dans Zacharie, il faut revenir à lui et rompre avec les mauvaises conduites. Alors, le chapitre 4 qui nous intéresse particulièrement, comment est structuré ce passage ? Alors déjà, comment est structurée cette première partie de chapitre 1 à 6 où il y a toutes les visions ? On voit que ce n'est une structure qui n'est pas commune à nous, où on a des trois points en général, avec un premier, une première partie, comment on appelle ça ? Oui, une introduction, première partie, on contredit après, enfin je sais pas, thèse, antithèse, et puis la conclusion. Zacharie ne fonctionne pas du tout comme ça, et d'ailleurs, c'est les auteurs de cette époque-là, la pensée juive ne fonctionne pas comme cela. Et On va parler d'un gros mot, on va parler de ce qu'on appelle un chiasme. Alors un chiasme, on appelle aussi une forme concentrique, ça veut dire que, en fait, c'est que le début, la première partie va être repris par la suite à la dernière partie, la deuxième à l'avant-dernière, jusqu'à ce qu'on arrive à un centre de la pensée. Et donc, ce qui va être important, ça va être le milieu, du coup. Parce que pour nous, les Français, c'est la conclusion où on reprend tout. Et bien, dans ce livre particulier, puis dans la pensée juive en général, c'est comme ça que ça fonctionne. On a d'abord la première partie qui va après être la réponse en dernière partie, deuxième partie, à l'avant-dernière partie, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Et puis du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais pour vous donner un exemple qui n'a, voilà, qui est très simple de ce qui est un chiasme, c'est par exemple, on est enfant. On est un bébé. Puis on grandit, et puis on a des projets de vie. Et là, les projets de vie, on va dire que ça, c'est le centre de notre vie, quand on réalise les projets et tout cela. Et par la suite, eh bien, on commence à vieillir. On commence à devenir de moins en moins autonome, un peu comme on était à l'enfance. Et petit à petit, voilà, on arrive à être de moins en moins autonome. Comme on était quand on était enfant. Et puis, il y a ce centre, ce projet de vie, vous voyez. Bon, c'est un petit exemple comme cela, qui montre aussi un peu ce côté, l'importance du centre, quoi. Alors, j'ai fait une petite diapo, je ne sais pas si ça... Mais c'est très bien, voilà. Donc, on a une première vision qui se trouve au chapitre... voilà, je n'ai pas tous les versets, là, je crois, en tête. Mais... Voilà, vous pourrez voir, mais voilà, dans les chapitres 1 à 6, on a une première vision qui concerne des cavaliers qui sont envoyés par l'Éternel pour parcourir la terre et faire un rapport. Puis la deuxième vision, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Et vous voyez que ensuite, à la huitième vision, donc on arrive au chapitre 6, donc c'est cinq chapitres plus loin, on revient avec les chars parcourent la terre et Dieu jugera. On a d'abord voilà, des cavaliers, et puis par la suite, l'événement du jugement, on va dire, du compte-rendu de ce qui a été fait par les cavaliers. Le jugement des nations par l'Éternel, donc la deuxième vision. La septième vision, le péché qui est enfermé et emmené en terre païenne. Vous voyez, le jugement et les conséquences. À la septième vision. La troisième avec la sixième. Alors, oui, excusez-moi, là, je me suis un peu embrouillé, mais c'est plutôt ça. Je vais passer la deuxième diapositive, c'est plus clair, excusez-moi. Voilà, on a plutôt comme cela. C'est-à-dire que les cavaliers avec les chars, la deuxième et la troisième vision avec la sixième et la septième vision, vous voyez. Contre les mauvais, le péché enfermé, voilà, le jugement, les conséquences. Et puis ce centre, où on a lu aussi le chapitre 4, mais également le chapitre 3. La fonction de grand prêtre est restaurée et des hommes sous l'onction, prêts à servir pour rebâtir le temple. Donc voilà comment ça fonctionne, avec une première vision qui renvoie à la dernière vision, les deux suivantes avec les deux avant-dernières. Et puis, deux visions qui sont au centre de toutes les visions, quoi, de notre section des chapitres. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais on va voir ensemble ce qu'on va faire avec tout cela. Et donc, on va s'attarder à cette cinquième vision, ce qu'on vient de lire. et mettre en avant aussi la structure de cette cinquième vision qui est également intéressante. C'est déjà, on repère différentes parties. Hein. On a le verset 1 à 3, on a l'ange qui transmet une vision à Zacharie. Zacharie, ben, il ne comprend pas, donc il demande des précisions. Ensuite, un oracle, donc c'est un oracle, c'est une annonce de ce que Dieu y veut. Donc, une annonce de Dieu à Zorobabel. Qu'est-ce qu'il veut? Quel projet pour le temple? Comment ça doit se réaliser? Et puis après, l'Éternel révèle au peuple la construction du temple réalisée à travers Zorobabel et explication de la deuxième partie de la vision. Donc, vous voyez là, le verset 1 à 3, on a une vision qui est transmise. Verset 11 à 14, l'explication de la vision. La deuxième partie qui renvoie à l'avant-dernière, donc Zacharie ne comprend pas, et bien l'Éternel révèle, voilà ce qu'il va faire. Et puis, au milieu de tout cela, on a cet oracle, cette annonce de la volonté de Dieu à Zorobabel, versets 6 à 7. Voilà. 6 à 10, oui, je me suis trompé là, je crois. Voilà, verset 1 à 5, j'aurais dû venir directement à là. Vous voyez? On va, vous inquiétez pas, ça devient compliqué, mais c'est plein de chiasmes qui sont dans des chiasmes, mais après on va un peu respirer dans tout cela. Voilà, donc comme je vous ai montré, on a trois parties hein, dans le texte. Et donc, au centre du message de cette vision, de cette cinquième vision, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, c'est la construction du temple. La partie centrale de cette vision concerne Zorobabel et le temple qui est construit par la direction de Zorobabel. Et dans cette partie, il y a des sections encore qui se ressemblent, donc du verset 6 à 10. Et là encore, avec dans cette partie centrale, on repère encore un chiasme dans lequel on voit au verset 6, ce Saint-Esprit aux commandes de Zorobabel. Hein, si vous lisez le verset 6, voici le message, voilà. « Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. » C'est le Saint-Esprit aux commandes de Zorobabel. Le verset 10, la dernière partie de verset 10, le regard de Dieu sur toute cette œuvre, Dieu aux commandes. Vous voyez, le Saint-Esprit aux commandes, Dieu aux commandes. La partie B, verset 7, les acclamations face à tout le travail accompli par la construction du temple. Et on voit à l'avant-dernier la joie que doit procurer le commencement de la construction, verset 10a, hein, première verset, partie du verset, excusez-moi, du verset 10. Il aurait plutôt dû se réjouir voyant la pierre choisie en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Voilà, ça c'est verset 10, la première partie du verset 10. L'Éternel s'adresse au peuple par l'intermédiaire de Zacharie, verset 8. Et la deuxième partie du verset 9, l'Éternel appuie ses dires envers les peuples. Et au centre, en rouge là, Zorobabel présente du début à la fin pour la construction du temple. Verset 9a, donc ça c'est le centre vraiment du passage. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Ça c'est le centre de notre passage. Voilà, là on arrive enfin à la fin de tous ces chiasmes. Maintenant on va essayer de un petit peu... respirer maintenant qu'on a vu tout cela. Alors j'essaye de revenir parce que comme je regardais la diapositive, il faut que je retrouve où j'en suis. Alors voilà, donc les chiasmes c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, le chiasme, ou la forme concentrique, peut-être c'est comme ça qu'à l'école on l'a plus appris, a le but de mettre en évidence le message central. Et le message central qu'on trouve donc la première partie du verset 9, c'est un homme qui travaille du début jusqu'à la fin à la construction du temple. Maintenant qu'on a la structure du passage, essayons de comprendre maintenant cette cinquième vision avec tous ces éléments qui nous ont été donnés. Alors on va faire un inventaire de toutes les images qu'on trouve dans ce passage. Et la première image que nous avons, c'est le chandelier. Le verset 2, je vois un chandelier tout en or. Je vois un chandelier tout en or muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Il s'agit de l'élément, donc le chandelier, qui forme un tout. Et donc le reste de cette partie, de cette vision, parle des éléments du chandelier et des éléments constitutifs à ce chandelier, qui servent au bon fonctionnement de ce chandelier. Si je pars sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'élément central de notre passage, c'est la construction du temple de Dieu. Et ça, c'est déjà depuis le début du chapitre 1, déjà depuis le début du livre de Zacharie, l'élément central est la construction du temple. Et là, on apprend dans ce passage que Zorobabel est l'architecte. Alors, ce chandelier, on nous parle de lumière. Et oui, ce chandelier apporte de la lumière, ce qui est dit par ces 7 conduits qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ça, c'est l'explication au verset 10, deuxième partie du verset 10. Donc voilà, la lumière le chandelier qui apporte la lumière, et c'est à travers ces 7 conduits. Vous voyez comment c'est un chandelier, hein, avec les 7 conduits. Le réservoir. Ce qui nous est dit, c'est que ce n'est pas par les forces humaines que la lumière peut bien éclairer, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, que, tel que le verset 6 nous fait permet de comprendre, verset 6, cette œuvre, vous ne la comprendrez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le réservoir serait donc la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit étant la présence de Dieu. Le réservoir est donc l'élément qui permet à ce que la lumière tienne un certain temps. Et les 2 oliviers qui sont de chaque côté du réservoir sont ces 2 hommes qui ont reçu l'onction. C'est pour ça qu'ils sont à côté des réservoirs, ils ont reçu l'onction, le Saint-Esprit, on peut dire. C'est ce qu'on voit au verset 14. Et ces 2 hommes, on a d'abord l'homme du chapitre précédent, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, le chapitre précédent fait partie aussi du centre la vision 4 et 5 font partie du centre. Eh bien, on retrouve l'homme du chapitre précédent, Josué, qui est réinvesti comme grand prêtre. Et puis, on retrouve dans ces 2 hommes, Zorobabel, dans ce chapitre-là, l'architecte du temple. Josué, réinvesti comme grand prêtre, et Zorobabel, l'architecte du temple. On a donc les chapitres 3 et 4 où j'ai dit qu'ils sont le centre des visions. Et d'ailleurs, on peut voir des ressemblances entre ces 2 chapitres. Le chapitre 3 qu'on n'a pas lu, hein, mais où on peut voir au chapitre 3, verset 9, où il est dit « Voici que je pose une pierre devant Josué, sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. » Vous voyez déjà, il y a des petites ressemblances. J'y graverai moi-même son inscription, le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. Et donc, les chapitres qu'on a lus, là, au verset 7, devant toi, Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Vous voyez, je pose une pierre devant Josué. Et là, on revient avec la pierre. Et au verset 10 du chapitre 4, la deuxième partie, où on parle des sept. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous voyez, il y a des similitudes entre les deux chapitres. Et pourquoi cela? Eh bien, les deux oliviers sont alimentés par le réservoir. Eh bien, de même, Josué et Zorobabel reçoivent l'onction, le Saint-Esprit, par lequel ils sont les ambassadeurs du Temple. Alors, la question qui nous intéresse, c'est, mais c'est ce chandelier. À quoi? À quelle image il correspond? Et beaucoup de personnes dans les commentaires que j'ai pu voir vont dire que c'est le peuple de Dieu, que ce chandelier représente le peuple de Dieu dans ce passage. Parce qu'il y a cette idée de lumière, on est appelé à être cette lumière. Ce qui est très intéressant. Mais je vois peut-être un souci de représenter le chandelier comme le peuple de Dieu par le fait que ce chandelier est là aussi appelé pour être, pour juger aussi. Comme on le voit à la deuxième partie du verset 10, quant à ces sept, donc ces sept conduits là du chandelier, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc ça ne peut pas être simplement le chandelier, simplement le peuple de Dieu. Il me semble que le chandelier représenterait plutôt le temple. Pourquoi? Parce que le temple, c'est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Mais c'est également un lieu où, pour le salut de tous les peuples. Effectivement, on peut voir dans d'autres passages de la Bible, en Zacharie 14 par exemple, ou Michée 4, que le temple est un lieu pour le salut des peuples. Et on verra même un texte par la suite dans Éphésiens, qui nous montre bien cela. Et donc, ce chandelier représenterait donc le temple, la présence de Dieu, et en même temps un lieu de salut pour les peuples. Alors, une autre image maintenant qui nous intéresse, c'est ce verset qui dit « Qu'as-tu, toi, grande montagne ?» Donc au verset 7, « Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce, Dieu fasse grâce pour elle. Une montagne pour extraire toute la pierre, pour construire le nouveau temple. » Voilà cette grande montagne apparemment. Et cette précision qui dit « tu seras transformé en plaine » pourrait vouloir dire que le temple sera si prestigieux que même cette grande montagne, qui on pourrait l'imaginer, sert comme une carrière, ce serait une montagne comme une carrière de pierre, comme on peut voir, eh bien, on extrait la pierre, on extrait tellement cette pierre, parce que le temple est tellement grand, que eh bien, cette montagne ne va plus exister, puisqu'il n'y aura plus de pierre sur cette montagne. Que ça va aplanir cette montagne. Et donc, la première partie du verset 10, qui est, en fait, on l'a vu tout à l'heure, le texte parallèle au verset 7, met en perspective ce scepticisme du peuple quant à la possibilité de reconstruire ce grand temple. Et qui es-tu, grande montagne, au verset 7? Et puis on voit au verset 10, la première partie du verset 10, ce scepticisme, trois versets plus loin. L'Éternel qui a créé cette grande montagne, lui-même, par l'aide de son esprit, il la réduira en plaine. Au verset 16, 7, nous avons un aperçu positif de comment sera l'achèvement du temple. Et au verset 10, un aperçu de ce qui va bloquer finalement à une illusion de la construction du temple que le peuple ne croit pas pouvoir réaliser. En fait, le verset 7 répond en réalité au verset 10. C'est le grand Zorobabel, par la puissance du Saint-Esprit, qui va permettre de réaliser ce temple. C'est ce verset 9, la première partie du verset 9, le centre de notre structure, cet oracle, cette annonce de Dieu à Zorobabel, qui nous montre que Zorobabel est le deuxième, après Josué, à être chargé de ce grand rôle de grand prêtre. Parlons maintenant de cette pierre extraite par Zorobabel et choisie par la fondation du temple. Et il y a un verset qui me frappe quand je lis ce passage dans Zacharie, qui me fait comprendre que ce passage évoque quelque chose de bien plus grand que ce que l'on peut imaginer par cette simple lecture. On a au chapitre 3, verset 8, donc avec Josué. « Et maintenant, écoute Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant moi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. » Josué sert de préfiguration pour le futur, et bien ainsi que Zorobabel. Au verset 9 de ce même chapitre, il est question d'une pierre également, mais qui est gravée par le Seigneur lui-même. Par cela, il ajoute qu'il ôtera le poids de la faute du pays. Ah, j'ai oublié. Et dans Éphésiens, alors là, on va dans le Nouveau Testament, un peu plus évident pour nous. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Voilà ce qui est dit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens, des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Vous voyez, dans ce passage, on a un résumé finalement de tout ce qu'on a déjà vu. Il nous montre la pierre principale est le Christ. Et les apôtres sont le fondement, les apôtres et les prophètes. Ce sont ceux que Zorobabel a placés dans ses mains, entre ses mains. Le chandelier qui représente le temple, dans cette vision de Zorobabel, nous met en perspective les versets 21 et 22 de Éphésiens qui nous montrent qu'il existe bien une demeure où Dieu habite, dans laquelle le peuple est intégré. La pierre principale n'est pas simplement une pièce maîtresse pour les fondations physiques du temple, mais elle sert d'union entre Dieu et son peuple. Par cette pierre principale de fondation qui est Jésus Christ. C'est cette pierre qui permet la fondation du temple. Mais la construction du temple, vous le comprenez bien, ne se fait pas toute seule. Il y a des personnes qui sont autour. Et c'est ce que nous voyons avec l'Église, par exemple. Ce chandelier est bien équipé de plusieurs éléments qui forment un tout. Et dans Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19, il est dit « Tu es Pierre », donc le prénom Pierre, hein, le disciple de Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra plus. » Et ce passage nous montre, il nous parle d'une pierre qui est différente de la pierre principale qui est Jésus. Il nous parle de Pierre, Pierre le disciple, Pierre l'apôtre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver comme différence aussi dans la description des pierres dans Zacharie 3 et dans Zacharie 4, qui nous montrent que la pierre, dans les deux cas, joue un autre rôle. Mais ce qui est important de révéler est que Pierre, l'apôtre, sera, comme il expliquait dans le livre des Actes, le fondateur des églises. Le fondateur des églises dans le monde avec, comme pierre angulaire, Jésus-Christ. Et cette église remplacera ce qu'on appelle le temple dans l'Ancien Testament, comme monument physique. Il sera remplacé par un véritable temple qui rassemble ceux qui ont accepté le salut de Jésus-Christ. Les deux visions que nous trouvons au chapitre 3 et chapitre 4 de Zacharie sont au centre de l'ensemble des visions que Zacharie a. Et pour cause, nous avons dans ces deux chapitres les deux préfigurations les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Nous avons au chapitre 3, dans cette quatrième vision, explicité l'œuvre de Jésus-Christ qui a pour conséquence, une restauration personnelle avec cette dimension universelle de salut. Et au chapitre 4, ce chapitre que nous avons lu, cette cinquième vision, nous avons la réunification du peuple avec Dieu qui passe par la construction de l'Église. Un peuple réuni qui apporte la lumière comme ce chandelier. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Matthieu 5, verset 16. C'est ça, le peuple de Dieu, ce temple, cette église. Et cette vie sur terre, depuis le début de l'humanité, c'est un peu comme un énorme chiasme également. Il y a ce commencement avec le jardin d'Éden, tout beau, tout idyllique. Puis de l'autre côté, cette fin de vie, mais avec cette nouvelle terre, ce nouvel Éden. Il y a ce deuxième épisode après Éden, le jardin d'Éden, où il y a ces guerres, ce péché qui est rentré dans le monde, et ces guerres qui ont lieu avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et qui annonce un jugement à cause de mauvais comportements. Puis de l'autre côté du temps, juste avant, à la fin des temps, ce jugement également, ces guerres, cette guerre avec le malin, parce que cette désobéissance. Puis au cœur de cette vie, de cette histoire de l'humanité, nous avons cette vie sur terre, cette vie de ce que Jésus a réalisé, l'arrivée de Jésus sur terre comme sauveur. Et puis, cette création de l'Église. La question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec ce centre de ce chiasme. S'il y a bien cette nouvelle terre, on ne peut pas non plus ignorer cette réalité du jugement dernier. Mais ce qui va être déterminant pour nous, c'est ce centre, avec cette réalité de Jésus comme sauveur. Et puis, cette église, l'église de Dieu qui a été établie pour réunir son peuple, pour former un peuple. Que faisons-nous de cette réalité ? Que faisons-nous avec cette réalité? Jésus-Christ, Sauveur, qui nous a enlevés de la mort, et l'Église, ce lieu de résidence de Dieu et de son peuple. Quels sont nos projets maintenant? Il y a plusieurs choses que j'aimerais vous rendre sensibles maintenant, à partir du texte que nous avons étudié. C'est premièrement être conscient de ce grand plan, ce grand projet que Dieu a pour notre restauration, pour la restauration de son peuple, de chaque individu. Être conscient, deuxièmement, de ce grand projet de Dieu pour nous réunir avec lui, à penser qu'il y a ce grand banquet qui aura lieu avec tout le peuple de Dieu. Il veut nous réunir, veut former ce peuple. Troisième chose à penser, c'est de ne pas nous laisser aveugler par cette grande montagne. Dieu aplanit nos sentiers. Tel que nous avons pu voir avec cette montagne, cette vision que Zacharie a, dans laquelle il s'est transformé en plaine. Nous avons juste à placer notre confiance, notre foi, sur cette pierre fondatrice, Jésus-Christ. Et quatrièmement, nous sommes appelés dans un projet également, dans ce grand projet que Dieu a fait, nous sommes également appelés à travailler. Zorobabel est là depuis le début jusqu'à la fin de la construction du temple. Et si Zorobabel était l'architecte, nous sommes appelés à être les ouvriers, à travailler ensemble aussi avec l'Église pour ce grand projet qui est de former ce peuple. Et pour former ce peuple, eh bien, il faut faire des nouveaux disciples. Et le thème de 2018 pour la Fédération Baptiste, c'était construire l'Église ensemble. Et donc là, vous voyez, avec cette nouvelle année, j'ai voulu aussi rappeler ce thème, cette thématique de construire l'Église ensemble. Mais le nouveau thème pour 2019 de la Fédération Baptiste, c'est que l'Église puisse résonner dans la cité. Et donc, en construisant l'Église ensemble, en voulant réunir son peuple, en voulant former le peuple, nous sommes appelés à aller aussi au dehors. Parce que l'Église, comme on l'a vu, n'est pas faite pour être un bâtiment fermé entre quatre murs. Mais l'Église est une réalité spirituelle, mais une réalité d'individus aussi. Et Dieu nous appelle à cette mission. Jésus nous a appelés à venir faire des disciples, à les baptiser. Allons au loin. Et donc, pensons à cette thématique de cette église qui résonne. Alors, c'est un jeu de mots, résonne, c'est aussi des cloches qui résonnent, c'est de la musique qui résonne, mais que nous puissions résonner dans la cité, que nous puissions nous imprégner de cette thématique. Et pour terminer cet enseignement, j'aimerais encore une fois juste relire ce passage d'Éphésiens que nous avons déjà lu, d'Éphésiens 2, versets 17 à 22. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Mais oui, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ton message. Seigneur, tu as vu que tu nous as révélé ta parole, parfois avec des passages compliqués. Mais Seigneur, que nous puissions nous imprégner de ta parole. Et si besoin, relire encore ta parole, relire ce livre de Zacharie, ce prophète qui nous révèle ce plan si merveilleux que tu as réalisé pour nous. Cette révélation que, oui, tu as mis un sauveur, oui, tu as voulu réunir en tant que frères et sœurs, tu as voulu former un peuple avec nous, tu as voulu te rendre proche de nous et former un seul peuple. Seigneur, que nous puissions comprendre cette réalité et nous puissions témoigner au monde de cette bonne nouvelle que tu as faite pour nous. Et qu'il puisse être une réalité pour les autres aussi, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen.